du coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Coq à l'âne. Aujourd'hui, nous sommes du côté de Briançon avec autour de la table... Eh bien, les cocaïens habituels, j'allais dire, Philippe Stockley.
Bonjour.
Bonjour, Philippe. Nous avons aussi Jean-Paul Grolier.
Bonjour tout le monde.
Voilà. Alors, que de cocaïens, hein, puisque Yves ne pouvait pas se libérer aujourd'hui. Rémi est toujours par Mons et par Vaux. Voilà. Bon, on est content, on a quand même notre invité, c'est quand même l'essentiel. C'est Sébastien Fine qui est avec nous. Bonjour, Sébastien.
Bonjour à vous.
Maire de Villars-Saint-Pancras. Et comme d'habitude, on va débarrer avec... le petit édito, hein, le petit portrait. Non, c'est un édito, on peut le dire comme ça. L'édito de Philippe Stockley, on t'écoute, mon Philippe.
Eh oui, bon, tout le monde, ou presque ici, connaît la célèbre douceur angevine, vantée par Joachim du Bellay. Un poème qui commençait par Heureux qui communiste a fait un beau voyage, et qui finissait par Et plus que l'air marin, la douceur angevine. Rappelez-vous, dans votre lagarde des Michards du XVIe siècle.
Et on a tous eu ça, hein. Enfin, ouais. En tout cas, on est pour les plus vieux autour de la table. Je ne sais pas, Sébastien. Nous, on les a eus, en tout cas.
Des souvenirs de seconde, ouais.
C'est ça.
La gare de Michard. Où, Michard? Ils sont pas en grève dans cette gare? Se demandent les plus jeunes. Enfin, les plus jeunes parmi ceux qui écoutent l'émission sur le podcast du site internet d'Alpe 1 et sur l'application Alpe 1. Je m'arrête un instant sur un souvenir de lycéens. Ils ne sont pas si nombreux. Les Lagardes et Michards, 5 livres et plein de souvenirs, un livre par siècle, qui nous ont initiés à la littérature française, voire même à nous la faire aimer. Même le cancre que j'étais s'en rappelle encore. Bon, la douceur angevine, je l'ai bien connue, parce que j'étais aussi étudiant en horticulture, donc c'était vraiment le coin où il fallait y aller. Un peu moins cancre à ce moment-là. Et c'est une véritable réalité climatique. Mais... pour ce qui est de mon billet d'aujourd'hui, je voulais la comparer, cette douceur angevine, en totale collaboration avec Joachim du Bellay, vous pouvez le vérifier sur sa page Facebook, je voulais la comparer, cette illustre douceur angevine, à la douceur eau alpine. Non pas pour sa douceur climatique, vous vous en doutez, parce qu'il ne faut quand même supporter les gelées hivernales et printanières, parlez-en aux pommiers du sud du département, mais pour sa douceur sociale, disons carrément politique. Au fait, Thierry, tu habites toi dans la capitale douce?
Absolument.
Ça te fait quoi?
Rien.
Bon, eh ben, en fait, du coup, je voulais juste vous parler de l'ambiance locale, du degré de rébellion qui a été exprimé dans notre département lors des dernières manifestations anti-64. On a collectionné dans la presse locale les sempiternels qualificatifs de « bon enfant », « dans le calme », alors que dans les grandes métropoles, on cassait du kiosque à journaux, du CRS, on dévalisait des boutiques Nespresso pour redistribuer les capsules à tous, même à ceux qui avaient une cafetière sans CO.
Ah oui, ça c'est problématique,
bon,
ça.
Ce n'était que des robins des bois de banlieue, avec cagoule noire et sur la tête, et sûrement peu de notions de ce que peut être le travail et bien évidemment la retraite. Mais bon, en bon retraité privilégié que je suis parti à 62 ans, je me suis amusé à déterminer pour la population française un coefficient de rébellion que j'ai fixé à 1,01.
D'accord.
Bon, me regardez pas comme ça.
Non, non, mais c'est ton choix.
Tu nous inquiètes un peu quand même.
Oui, non, mais attends, tu vas comprendre, tu vas comprendre.
En fait, je multiplie la population d'un département par ce coefficient et j'ai plus ou moins le nombre de manifestants ou de perturbateurs potentiels. Soit, par exemple, pour les Bouches-du-Rhône, 2,1 millions d'habitants quand même, multiplié par 1,01, égale 21 000 personnes potentielles dans la rue ou sur le Vieux-Port. Et pour les Hautes-Alpes, 140 000 personnes, la population multipliée par 1,01, égale 1400 personnes dans les rues douces. Forcément, c'est pas le même combat. Du coup, Macron, comme on l'appelle dans la presse, alors je fais une petite parenthèse, j'étais intrigué par des titres dans la presse comme « Sophie Binet ne veut pas rencontrer Macron ». Comme quoi on perd son prénom à partir d'un certain seuil de respectabilité. Je trouve
C'est vrai, j'ai remarqué ça aussi.
Au fait, Sophie Binet, c'est la nouvelle patronne de la CGT, pour ceux qui ne passent pas leur vie devant BFM TV. Donc le PDR, comme on l'appelle aussi, en plein marasme, doit choisir un village de France où aller enfin se montrer pour la première fois pendant la tempête. Et quel village choisit-il?
Ça, c'est énorme quand même.
Saint-Vin-le-Lac.
Non, il aurait pu choisir Villars-Saint-Pancras aussi.
Par exemple, oui.
Et
un jour de semaine en plus. Des jours où tout un chacun qui a moins de 62 ans se doit d'être au...
Boulot. Ben oui.
Résultat, 80 personnes qui devaient être en congé ce jour-là sont allées dire au président de la République Macron leur opposition à la retraite à 64 ans. Enfin, pour ceux qui n'avaient pas de régime spécial. Mais là, département oblige, tout se passe en douceur. Pas de jet d'objets dangereux, pas de pneus brûlés, pas de palettes est au milieu de la route. Les manifestants étaient tenus à distance.
Hein, loin ils étaient parqués dans un endroit et ils ne pouvaient plus bouger.
Loin du discours. Et comme ils n'étaient pas au courant du timing présidentiel, coincés du mauvais côté du pont, ils n'ont pas pu quitter l'endroit qu'une demi-heure avant, après le départ du président.
Oui, c'est ça.
Suppliant les CRS de les laisser partir. On doit aller chercher nos enfants. Bon, attention, hein, je ne me moque pas. Je voulais juste dire que selon l'endroit, la rébellion est variable et adaptée à l'ambiance locale. L'essentiel étant de faire passer un message, de pouvoir exprimer un avis contraire en toute légitimité, sans pour autant se cacher derrière une cagoule ou un masque chirurgical, sans pour autant détruire les équipements publics ou insulter les policiers. C'est comme ça que la colère s'est exprimée dans les Hautes-Alpes, tranquille, et ce n'est à mon goût que plus respectable et plus légitime. Petite parenthèse tout de même. J'ai vu dans une manif qu'un véhicule Enedis précédait le défilé dans les rues de Gap.
Ah ben oui, ils avaient un piquet de grève à Gap avec Enedis.
Donc un véhicule bleu. Alors je me suis dit, mais l'employé de l'entreprise publique avait l'autorisation de sa direction de prendre le... Qui c'est qui a payé le carburant
Je sais pas, moi.
Alors, je trouve qu'une image comme ça leur rend pas service. La rébellion assistée... j'ai pas dit la direction assistée.
Non, on est bien d'accord.
La rébellion assistée, ça ne fait pas bien sérieux. C'est même peu respectable. À mon goût. Je termine donc ma revue des manifs douces à Briançon, où tout a été plus que correct, tout en haut du département doux, légitime et respectable. Et pour finir dans la douceur intégrale, je me retrouve au beau milieu de la paisible commune de Villars-Saint-Pancrace, dont notre invité aujourd'hui est le maire, une commune juste à côté de Briançon, et surtout ne parlez pas de banlieue, hein, où la quiétude est une règle de vie, où le tourisme a juste sa place. Bienvenue à Villars-Saint-Pancrace, havre de paix sociale. Bienvenue Sébastien.
Oui, bienvenue. Merci. Sébastien. Est-ce que Sébastien aurait été pistonné? Parce que je crois savoir qu'autour de cette table, il y a deux habitants de Villars-Saint-Pancrace.
En effet, oui. Voilà, un ex-gargouillard. Bon, j'explique en deux mots, je suis très attaché à la gargouille, vous le savez, mais j'ai trouvé quand même que les marches d'escalier, j'en avais 75, étaient plus hautes chaque année.
Ouais, c'est plus de ton âge.
Ça fait 7 ans que je suis à Villars et j'en suis ravi. En plus, j'ai découvert qu'à Villars, il y avait un esprit un petit peu partisan, un peu comme dans la gargouille. On n'aime pas trop se rallier à certaines villes ou autres. Et je sais qu'à Villars, ils ont toujours mis un petit peu d'espace.
De distance, on va
de
dire.
De distance entre Villars et...
Et les autres.
Et la grande ville de Briançon.
D'accord. Voilà. Okay.
Les gargouillards ayant à peu près le même état d'esprit.
Alors Sébastien Villars, Saint-Pancrace, en quelques mots.
Bah écoutez, commune, petite commune à côté de Briançon. Et c'est bien vrai que... Nous ne souhaitons pas être la banlieue de cette grande ville, mais nous souhaitons quand même vivre avec cette ville, parce que bien c'est sûr. Notre ville. Briançon, c'est notre ville, je le redis, malgré tout. Et c'est important qu'on ait dans le nord du département aussi cette vision, cette envie de faire les choses ensemble, même si parfois c'est peut-être un peu plus compliqué. Moi, je reviendrai sur ce que tu as dit là, sur la douceur de nos manifestants. Il semblerait quand même qu'il y ait eu un dommage collatéral. C'est la sono de la CGT qui a payé les frais de cette manifestation et qui a pris à voler d'elle-même, de telle sorte à ce que le président ne soit pas forcément très chahuté pendant cette visite. Pour revenir sur Villars, voilà, oui, on est quand même une commune qui regarde avec vraiment précision, impatience, et nous discernons bien certaines choses, notamment l'histoire du tourisme. Ça fait beaucoup d'années où nous regardions passer les véhicules qui montaient dans la vallée de la Guisane, qui venaient sur Briançon aussi, et puis on s'est quand même dit que cette manne touristique pouvait peut-être bénéficier un peu aussi au village. Mmh. Alors, parfois c'est un peu trop. Le lac de l'Orserette est vu, revu dans toutes les saisons, été, hiver, automne, et les flux commencent à être importants, comme dans les vallées d'à côté, hein, la vallée de la Clarée, la Servière également. Je veux dire, on paye, c'est pas payé, on récolte les frais de cette politique touristique, et le fait que les familles souhaitent aussi se retrouver dans un cadre extrêmement naturel. Je veux dire, chez nous, une fois qu'on sort du village, là vous pouvez le confirmer ou tu peux le confirmer aussi, on sort de la maison, nous le confinement, les habitants du village, le confinement, on n'a pas su ce que c'était. Ouais. À un moment donné, on ferme la porte et on est dans la nature, quoi.
Ouais.
Et, et tranquille. Mmh,
mmh. Parce qu'il faut connaître le lac de l'Orcerette. Thierry, toi, le gars pensait d'où ?
Je connais pas.
C'est un des plus bels endroits, avec le lac de Soulier d'ailleurs, je trouve. Vraiment, c'est un des plus bels endroits du nord des Hautes-Alpes.
Pour y aller, c'est 10 km de route très étroite qui traverse des petits villages.
Plus et, deux heures en venant de Gap, hein. Oui. N'oubliez pas. Non, mais c'est parce qu'il y a les derniers 10 km, mais il y en a quelques-uns avant qui sont quelquefois un peu galères.
Quand bien même, ça vaut le coup, Thierry.
Parce que, non, mais ce qu'il y a, c'est vrai, c'est qu'en juillet-août, c'est complètement.
Oui. Il y a du monde.
Il y a beaucoup de monde. Oui, comme la vallée de la Clarée, comme disait Sébastien, où on instaure un système de navettes. Mais c'est vrai que la vallée de la Clarée, en juillet-août, c'est devenu très très compliqué. Quoi. C'est à gérer, c'est pour les
Et donc, il y a des vacanciers qui viennent à Villars.
Un petit peu, oui. Un petit peu. Il
y a de la résidence secondaire.
On a une. À peu près 250 résidences secondaires sur la commune, mais ça reste de l'habitation. Principalement, on n'a pas de grosses structures.
Oui.
Et puis il y a des gîtes qui se sont créés à Villars aussi. Donc c'est quand même un petit signe que les gens s'intéressent à cet endroit.
Il y a du lit chaud, comme on dit, hein, pour éviter le lit froid.
Très, très chaud.
Il y a combien d'habitants sur Villars ?
On est 1477. Bon, allez, 1500 arrondissant. On est la troisième commune de la communauté de communes.
Ouais.
Et je crois le 13e du département en termes de population. Mmh.
Ce qui explique en partie que tu sois vice-président de la communauté de communes.
Je te remercie. En fait,
c'est pas une histoire de qualité. T'as un peu d'importance au niveau de ta ville, bah voilà, t'es vice-président, quoi. C'est sympa, Sébastien. Voilà, t'es reçu.
Parce que j'ai trouvé ça extraordinaire, enfin bon, d'une maladresse inouïe.
Les travers de la politique. Je veux dire, quand on fait de la politique pour faire de la politique, on en arrive là. Pourquoi Villars n'a pas de vice-présidence ? Et alors pourquoi Saint-Chaffré a deux vice-présidentes ? Voilà, je veux dire, la question, elle est dans les bouches de tous les habitants. Maintenant, voilà, la politique, elle est ce qu'elle est. Les choses, il faut qu'on avance. De toute façon, le territoire, on est élu pour le territoire, il faut que le territoire avance. Et moi, je suis là, voilà, j'ai pas de rancœur, j'ai pas de regret. Si. Mes habitants ont du regret parce que quand on participe pas aux décisions politiques et notamment lors des bureaux, on est un peu stigmatisé, voilà. Bon, oui. Si c'était que Villars-Saint-Pancras, on sait qu'il y a quatre collectivités qui en ont payé les frais, voilà. Et on sait qu'il n'y a pas de blocage en soi au niveau de la communauté de communes de notre part, puisque près de 99% des délibérations ont été votées. Tout ce qui va dans le sens, c'est très bien.
En tout cas, au départ, c'est une maladresse. Pour le moins, une maladresse.
Voilà.
Hein, d'accord.
Fermons la parenthèse.
Voilà, allez, tu en ouvres une autre, puisque c'est ton maire qui est là, en profitant.
Tiens, ça
profite. Profite.
Alors, Villars, VI2LAR, ça y est, il a compris ce que j'allais dire. Des fois, on voit un S, on voit un D, et ben non, ça s'écrit AR. Et donc, à l'entrée de Villars, tu as pris la route tout à l'heure, il y a un D, je crois. Donc, il y a un problème, là. Un tout petit problème, mais voilà. L'usage voulait, que, d'ailleurs... D'ailleurs, comment il s'appelle ? Jean-Paul Fin, c'est qui ce Fin par rapport à toi ?
C'est une famille assez éloignée. Bah, de toute façon, à Villars,
50%
de Fin et...
40% de Colombo.
À peu près. C'était quelqu'un qui me conseillait beaucoup... Et qui venait me rendre visite en passant par la porte de derrière de la mairie, comme ça se passe parfois à l'Élysée. On discutait, on échangeait beaucoup sur les traditions, sur la vie. Et c'est un peu mon guide. C'était mon guide.
Oui. Il a écrit d'ailleurs un joli bouquin qui s'appelle Villars Saint-Pancras, Villars AR, sans S ni D, Naissance et vie d'un village. Et c'est un très très joli petit bouquin.
Il y a deux tomes. Hein. Il y a un deuxième tome également de.
Ah ben tiens, ça.
Aux éditions du Fournel, dont nous avons reçu le patron Florian Vigne il y a quelques mois.
Oui, tout à fait.
Un peu de pub. Oui. Et moi, je me souviens quand même de Jean-Paul Fine parce qu'il avait la maison de la presse qui est juste à côté.
Derrière,
de
là.
À 100 mètres d'ici. Ouais.
C'était un accueil. Tu pouvais y aller à 7h du mat, à 7h du soir. Il y avait toujours des sourires, de la politesse, de l'engouement, de la. C'était quelque chose. Moi, c'était un plaisir de rentrer dans ce magasin.
On a donc raison d'en parler de ce Jean-Paul Fine.
Franchement, c'était une figure. Ouais. Et franchement, ça mérite d'en parler. Voilà. Oui. On referme l'autre parenthèse.
D'accord. Jean-Paul, tu as toujours la main. Hein.
Oui, non, ben voilà. Je trouve que ce serait mieux que les plaques soient... les plaques minéralogiques, enfin je sais pas comment on appelle, soit sans D ou S, et que Villard s'écrive V-I-2-L-A-R, comme c'était la tradition, l'usage, mais surtout comme c'est inscrit à l'INSEE, c'est un code géographique, mon ouais. fils étant géographe, a toujours été surpris, il me dit si tu tapes Villard, il y a plein d'endroits où on ne sait pas où c'est, si tu mets un D ou un S.
Eh ben ouais.
Voilà. Donc c'est une petite chose, puis c'est
non, mais
par amusement.
Hein, touches, non, non, mais tu touches un vrai point. C'est vrai que et là, on va encore cliver la population, parce que descendez, ça mériterait peut-être un référendum et un changement de nom.
Oui, d'accord.
Oui, mais tu sais que la France est un peu irréformable, et certainement Villars-Saint-Pancras aussi. Donc un référendum, ça pourrait peut-être, effectivement, peut-être ça permettrait de trancher un peu.
Villars-Rebelle.
Voilà.
C'est ça.
Oui, mais enfin, donc, il y a quand même, pour l'instant, en France, un code géographique. Et si vous voulez changer une ville, par exemple les Crottes, qui est devenue l'Écron, voilà, c'est pas évident, c'est long et ça coûte très cher aux communes. Et puis donc respectons, enfin à mon avis, respectons le code géographique tout bêtement, toutes les cartes sont établies comme ça. C'est un tout petit détail, c'est par amusement hein, que je dis.
Tu voulais dire quelque chose ? Pardon. La France, pays définitivement irréformable. Ben voilà, c'était le premier sujet que je voulais aborder avec vous, avec cette réforme des retraites, hein, dont on parle depuis maintenant des semaines et des semaines. Alors, on peut même penser quand même que cette réforme, en fait, ne change pas grand-chose, hein, en sachant que depuis 2014, la réforme Touraine avait déjà accéléré l'allongement hein, de la durée de cotisation pour l'obtention d'une retraite à taux plein. La durée de cotisation a été relevée d'un trimestre tous les 3 ans, de 2020 à 2035 pour atteindre 172 trimestres, donc 43 années pour les générations 73 et les suivants. On se rend compte depuis toujours que bah, on a un problème avec les retraites en France, hein, ça date pas d'aujourd'hui, c'est une préoccupation majeure donc des politiques de l'État. Depuis longtemps, on peut même remonter bien loin, hein, puisque le premier livre blanc, c'était Michel Rocard qui l'avait reçu sur son bureau, 1991 je crois.
Oui. De toute façon, tous les présidents de la République là, qui se sont succédés ont eu une réforme. Et puis on rassure, les prochains en auront aussi.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Tout le monde a eu, tout le monde a fait ses réformes. Et il y a eu des réformes, enfin il y a eu des passages qui ont été beaucoup plus compliqués, non, enfin beaucoup plus durs normalement qu'aujourd'hui, et qui sont passés crème, hein, mine de rien. Je veux surtout parler de, comment s'appelait-il, Fillon. Le passage de Fillon était quand même un peu chaud aussi. Enfin, il y a eu beaucoup de retraites. Il y en a eu deux sous Nicolas Sarkozy, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc voilà, comment tu as abordé cette réforme des retraites, Sébastien, en tant qu'élu déjà, du côté de Villard?
Bon, en tant qu'élu, il semblerait quand même que les arguments du gouvernement qui ont été exposés étaient mal préparé, on va dire, parce qu'à un moment donné, quand on vient devant les médias et puis qu'on envoie certains ministres et qui ouvrent les boîtes de Pandore en plein débat en parlant de la pénibilité, en parlant des retraites, notamment des personnes, des femmes avec le fait que les carrières soient hachées et qu'elles vont... Je veux dire, à un moment donné, moi je comprends pas dans ces sphères-là, on a des conseillers politiques, on essaye de lire et de s'imprégner de ce qu'on va dire. Moi j'ai... voilà, la réforme des retraites, on l'a dit, Touraine c'est passé crème. Et Touraine, bon, à mon sens, fait plus de mal que ce qui va se passer là. Oui. Puisque l'allongement de la durée de cotisation, c'est là-dessus que les choses vont blesser. Oui. Moi, je suis dans l'éducation nationale. Nos jeunes sortent de plus en plus tard du cursus. Je veux dire, quand on dit que nos cohortes, nos populations de jeunes, il faut qu'ils arrivent à 90% pour avoir le bac, donc 90% d'une cohorte qui est le bac, et puis ensuite que ça poursuive dans le secondaire, on est sur du 20 ans, 22 ans, 23 ans. Si on rajoute 23 annuités, on est à 66 tout de suite. Donc cette réforme a fait du mal. Après, moi, elle a été mal expliquée. J'en veux beaucoup au gouvernement sur deux choses. La première, c'est on ne vient pas dans les médias la semaine d'avant le vote en Assemblée nationale en disant on a une majorité.
Oui.
Si on n'a pas de majorité, on le dit. On n'a pas forcément une majorité stable. Écoutez, nous, la réforme, elle est importante. On ira au 49-3. On le dit. je ne sais pas, les Français sont quand même capables d'entendre les choses.
Il faut savoir, c'est que les LR étaient au départ pour voter cette. C'est pour ça qu'ils ont dégainé le 49-3, parce que les LR, c'est une réforme qui a été faite aussi pour les LR. Oui. Et qui, au dernier moment, eh bien, ont un petit peu retourné leur veste.
On fait de la politique.
Alors
je dis ça, je dis rien.
Non, mais c'est tout à fait. Non, mais tu as raison, Sébastien.
Tu dis LR, ça veut dire quoi, là? J'ai perdu.
Les Républicains.
Ah, il y en a encore.
Il y en a encore. Merci. Ils ont peut-être du mal, mais il y en a encore. Hein. C'est comme les socialistes. Hein. Il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a encore. Donc voilà, donc c'est vrai que le problème du 49-3 est sorti tout simplement parce que les LR ont un peu retourné leur veste. D'ailleurs, ils les ont retournés dans tous les sens, puisqu'ils l'ont retourné pour ne pas voter, et puis ensuite ils l'ont retourné pour ne pas voter non plus la motion de censure. Donc ils se sont mis, c'est comme disait Coluche, je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Voilà, ça c'était la position des LR.
Et puis on entend partout par les oppositions qu'il n'y a pas eu de vote, il y a eu un vote au Sénat et il y a eu un vote de motion de censure. Et si on passe une motion de censure sur une assemblée nationale où on n'a pas la majorité, en théorie, on disparaît. Et donc là, il semblerait que la volonté de l'Assemblée nationale représentant du peuple n'a pas souhaité démettre le gouvernement. Donc il y a eu un vote, il faut quand même le dire.
Ah oui,
bien sûr.
De toute façon, sur le plan légal, voilà, c'est comme ça. Hein.
Bon, alors c'est
brusque,
quoi là?
Brusque mais légal.
C'est brusque mais légal. Bon, alors c'est quoi la suite? C'est quoi la suite d'après vous? Est-ce que ça va poursuivre? Est-ce que ça va se calmer? Est-ce que là on a vu qu'ils sortent systématiquement les casseroles pour accueillir le président? Bon.
Ça va forcément se calmer, c'est toujours comme ça. De toute façon, il y a eu quand même. On en parle peu, mais il y a eu une époque, c'était Juppé. Il y avait eu un gros marasme.
Une opposition.
Et puis voilà.
Il y en a plus d'un qui s'est pris des problèmes. Même si on remonte, je ne sais pas si vous vous souvenez, François Mitterrand, hein, sur la fin, c'était un peu compliqué. Hein. Mitterrand fout le camp, ce qui permettait d'ailleurs au président François Mitterrand de dire à l'époque, Mitterrand fout le camp, c'est une rime pauvre. Voilà, c'était pas une rime riche. Non mais ça c'était la culture du président. Mais ils ont tous eu des problèmes. Fillon, on peut s'en souvenir aussi avec le problème de son épouse, hein, vous souvenez, les costumes, etc. Enfin voilà, on aime bien détester ceux qu'on a portés au pinacle, ceux qu'on a montés tout en haut, j'allais dire, de l'affiche.
Je pense, voilà, chacun a eu ses manifs, ses machins, ses trucs, et forcément, la nature humaine, c'est comme ça, ça retombe, quoi. Hein, ça, c'est comme ça, ça peut pas être autrement. Ça retombe. Le problème, la différence, hein, je pense, maintenant, c'est la violence qui se passe autour de ça, quoi. La violence qui n'est jamais... Enfin, moi, je suis désolé, mais j'ai jamais entendu des gens de la NUPES dire faut que la violence s'arrête. Oui, le problème, oui. C'est qu'ils laissent faire. Et tout ce qui se passe, on parlait de violence, la fac de Caen, tout ça.
C'est vrai que ça c'est quand même terrible.
Ça, Juppé, Fillon, il se passait pas ça. Quoi. Il y a quelque chose en plus. Quand même,
ils étaient loin de ça parce que, au moins, il n'y avait pas les réseaux sociaux non plus.
Ouais. La violence des réseaux sociaux. Enfin, c'est pas forcément la violence des réseaux sociaux, mais c'est une caisse de résonance qui est énorme. Voilà.
Et énorme, mais pas franche. C'est ça le problème aussi, c'est que.
Ah bah oui, tout le monde peut se cacher derrière un pseudo.
Donc là, il y a quand même cette violence qui est en plus, qui est dérangeante.
Qui est plus que latente. Hein. Maintenant, on la voit systématiquement. Ces Black Blocs, là, je ne sais pas comment on les appelle, qui veulent casser. Bon, clair, net, simple et précis, ils veulent se payer un flic, quoi, hein, un jour. Hein. Je dis un flic sans que ce soit péjoratif, bien évidemment.
Et je le redis, voilà, je trouve que c'est regrettable que les gens de gauche, d'extrême gauche, n'aient pas des mots pour calmer tout ça. Je pense que quelque part, ça leur rend service.
Pas tellement, parce que si on analyse les sondages, il y a un parti qui stagne énormément, c'est la NUPES. Et il y a un parti.
Ça, c'est LFI.
Ouais.
Parce que la NUPES, c'est
oui,
un mélange
on est
de
d'accord.
Tout ça. C'est surtout LFI.
LFI stagne et régresse même. Ouais. Alors qu'ils pensaient que ça allait les porter. Et hélas, enfin c'est personnel.
On en parlera tout à l'heure du Front National. Enfin,
d'autres
du Rassemblement National.
Parce qu'ils ne disent absolument rien. Un calme absolu, bon. Cravate et tout.
En tout cas, la réforme de retraite a été validée. Hein, la loi était
promulguée. Ah oui, indiscutable.
On est bien d'accord. Est-ce que c'est une grande claque quand même dans la tête des syndicats? Ça, c'est la question que je voulais vous poser. Des syndicats qui, visiblement, ne représentent vraiment plus qu'eux-mêmes. Hein. Ça devient compliqué. Alors, on sait déjà qu'il n'y a pas beaucoup de syndicats en France. Et que là, est-ce que c'est une claque pour les syndicats, le fait que ce soit, quoi qu'il en soit, passé?
Les syndicats ont joué leur rôle, Après, ils n'ont pas été entendus, ça c'est très clair. Je pense que quand on arrive sur une table de négociation, que l'on dit que d'un côté on a 64 ans, on bouge pas, et que de l'autre côté c'est au moins la clé pour bouger, même si le gouvernement est passé de 65 à 64, c'était pour amuser un petit peu tout le monde, j'imagine, parce que c'était déjà dans les tuyaux les 64 depuis longtemps. Les syndicats pour moi sont utiles. Après, c'est vrai qu'en France, le fait qu'on ait pléthore de syndicats, alors il y avait Sarko qui avait essayé de rénover un petit peu tout ça, ouais, avec la représentativité, avec maintenant quand on manifeste en France, ça revient pareil, on revient à ce qu'on disait, maintenant quand on manifeste on n'entend plus rien, et puis moi j'ai souvenir qu'à la grande époque, à chaque fois qu'ils se déplaçaient il y avait des sifflets sous les fenêtres, etc. Les syndicats pour moi ils sont plus qu'utiles. Maintenant je sais pas si une réforme comme une réforme à l'allemande avec trois syndicats extrêmement forts qui ne déposent pas des préavis de grève tous les jours et qui se mettent autour des tables de négociation et qui, s'ils sont satisfaits, le disent, et s'ils ne sont pas satisfaits, déclenchent, ça semble des sorties possibles. Maintenant, on l'a vu dans cette fameuse réforme Sarko là où il fallait une représentativité, il y a eu des accoquinements de syndicats qui n'avaient pas forcément les mêmes objectifs et pas forcément non plus la même ADN. Donc si c'est pour arriver à un melting pot où on ne s'entend plus même à l'intérieur, je sais pas, vous avez vu tous les dernières assemblées générales de la CGT.
Oui.
Après, c'est des images extraites, j'imagine, mais c'est quand même assez folklorique quand même le truc. si ça se passe comme ça au moment de décider une intersyndicale, chaud. Et puis après on sait qu'aussi à l'intérieur là il y en a certaines qui font partie de l'intersyndicale et qui font cavalier seul aussi.
Oui, enfin,
à un moment donné on y va tout seul et puis on voit ce qui voilà,
au niveau des syndicats il faut quand même dire une chose, c'est que depuis les gilets jaunes on s'est rendu compte que les travailleurs n'avaient pas forcément besoin et les Français n'avaient pas forcément besoin de syndicats pour sortir dans la rue et expliquer ce qu'ils avaient envie, puisque les syndicats c'est eux qui ont emboîté le pas ensuite aux gilets jaunes,
Ça représente combien?
Mais rien. Et surtout il y a peu de syndiqués je crois,
c'est ça par rapport
à l'Allemagne en particulier.
Il y a quand même la CGT et la CFDT qui changent de patron pendant le conflit.
Oui.
Alors, je trouvais quand même c'est vraiment étrange hein, comme fonctionnement. Hein. Il y a quelque chose qui... En plein milieu du conflit, il y a la petite Madame Binet, là, justement, dont je parlais tout à l'heure, qui succède à, comment tu l'appelles?
Big Moustache.
Et à la CFDT, il y a Berger qui est remplacé par Ricard. Non, par... je ne sais plus. Mais c'est en plein conflit, changer de patron, enfin...
Entre Berger et Ricard, c'est le pastis, hein, c'est ça que tu voulais dire. Voilà, c'est ça.
Eh bien, mon Thierry.